Chapitre 25. L'arête nord était toujours constituée de dalles négatives couvertes de neige pour la plupart. Je l'avais presque oublié. Si Reggie et le diacre avaient réussi leur traversée jusqu'au sommet sud, puis descendu en rappel le gros rocher que j'appelais dans ma tête le ressaut de Cat Owings, je sourirais 30 ans plus tard quand il serait rebaptisé le ressaut Hillary. Il devait maintenant être en train de descendre les dalles positives de l'arête sud-ouest, un escalier de pierre plus facile menant au col sud et en dessous au cirque occidental. Mais était-ce seulement possible? Il aurait fallu réussir la traversée de l'arête enneigée en lame de couteau entre les deux sommets que nous avions aperçus de plusieurs endroits lors de notre approche. Était-elle praticable, ou s'agissait-il du piège mortel qu'avait été l'arête nord-est pour Bromley, Kurt Meyer et Jean-Claude? Non, pas pour J.C., songeais-je. Notre ami savait que la corniche était fragile et qu'elle ne supporterait pas le poids de deux hommes, et y avait entraîné Siegel délibérément. Mais le diacre et Reggie pouvaient-ils déjà se trouver sur l'arête sud-ouest, là où Owings leur avait promis des cordes fixes? J'avais le vague souvenir d'avoir vu deux autres fusées dans le ciel au-dessus du sommet de l'Everest, avant notre arrivée à l'ancien Kansas, vert et rouge. Blanc, puis vert et rouge. Quel message le diacre voulait-il transmettre à son vieil ami Owings? Mais le Bovril a chauffé sur le Primus, nous serons là dans quelques heures. J'en doutais. Le diacre n'avait jamais aimé le Bovril. À moins que le diacre et Reggie n'aient atteint le sommet, puis pris la décision la plus raisonnable. Revenir par où ils étaient arrivés. Serait-il alors déjà à la tente du camp 6? Non, attendez. Le diacre avait emporté la lourde tente de Reggie, et Reggie avait un réchaud Una. Il pouvait donc s'arrêter n'importe où. Quelle heure était-il? Combien de temps s'était-il écoulé depuis que Passang et moi avions quitté le deuxième ressaut? Le camp 6? Le camp 5? Je fouillais sous mes épaisseurs de vêtements sans trouver ma montre. L'avais-je prêtée à Jean-Claude quand il était venu me voir un moment plus tôt? Je n'en avais pas le souvenir. Il ferait bientôt sombre, dès que le soleil serait éclipsé par le sommet du Lhotse. Nous étions sortis d'une couche nuageuse et nous trouvions dans un air froid mais dégagé. Je distinguais deux tentes vertes dans le lointain, tout en bas sur le col nord. Regardant à droite, je remarquai trois objets d'aspect insolite flottant dans le ciel à environ 10 degrés au-dessus de l'angle de l'arête nord. Bizarre. Ils avaient une vague forme de cerf-volant ou de dirigeable, mais paraissaient beaucoup plus organiques. Des êtres vivants, manifestement, qui flottaient un peu à la manière de méduses, mais restaient parallèles à nous tandis que nous poursuivions notre descente. Tous trois étaient translucides et traversés par des flux, un peu comme une circulation sanguine, quoique de couleur pâle. Rouge, jaune, bleu, blanc. L'un d'eux possédait des sortes de moignons évoquant des ailes vestigiales, un autre une extension sur la tête qui ressemblait à un bec d'oiseau mais presque transparent, le troisième abritait un tourbillon de particules lumineuses en son centre, comme une brillante tempête de neige intérieure. Les trois entités pulsaient à l'unisson, mais pas au même rythme que mon cœur fatigué, notais-je de manière clinique. Alors que Passang me guidait, sans jamais se tourner vers la droite pour les regarder, les trois objets flottants au-dessus de la ligne de crête avançaient à la même allure que nous. Bien que transparents, ils étaient aussi étonnamment sombres, surtout quand un nuage passait derrière eux. Je détournai les yeux, ils ne restèrent pas dans mon champ de vision. Pour savoir si j'étais le jouet de mon cerveau, altéré par la maladie ou l'altitude, je regardais les cimes semblant alignées à nos pieds et tentais de me rappeler leur nom et leur hauteur. Le Changtse, derrière le col nord, culminait à 7582 mètres. Le Kartapu, de l'autre côté du col menant au glacier du Karta, à 7282 mètres. L'épaulement et les champs sommitaux du Pumori, à l'extrême gauche, à 7164 mètres, et à sa droite, adossé au glacier du Rongbuk, le sommet du Lingtren a seulement 6444 mètres. Mon cerveau et ma mémoire paraissaient fonctionner correctement. Je reportai mon regard sur la droite. Les trois objets organiques flottaient toujours parallèlement à nous. Ils restaient au même angle au-dessus de la ligne de l'arête nord, mais intervertissaient leur place. La créature au bec d'oiseau se trouvait à gauche, puis ce fut celle dotée des petites ailes de pingouin, avant que la troisième, au cœur scintillant, ne prenne la tête de la triade, descendant en même temps que nous. Des âmes? Les âmes pouvaient-elles ressembler à cela? Était-ce à cela que nous ressemblions, une fois libérés de nos corps? Je me remémorais que je ne croyais pas en Dieu, au ciel, à l'enfer, ni à une quelconque vie après la mort, pas même à la jolie théorie bouddhique de la réincarnation. Elles étaient trois, cependant. Quelles âmes, au nombre de trois, nous suivraient dans l'obscurité ce soir-là? Jean-Claude, Reggie, le diacre. Je retirai mon masque et tentai de parler, mais ne réussit qu'à émettre une toux, à moins que ce ne soit un sanglot. Suffisamment sonore pour que Passang, qui avançait avec précaution sur les dalles 3 mètres devant moi, s'arrête et se retourne. Conscient que des larmes gelaient sur mes joues, je ne pus que pointer le doigt vers les trois objets flottants. Passang tourna la tête vers l'endroit que j'indiquais. Quelques secondes plus tard, je suivis son regard. Un nouveau ruban de nuages de neige passait. Les trois entités avaient disparu. D'autres nuages les avaient dissimulés à ma vue un peu plus tôt, mais elles étaient toujours réapparues. Cette fois, j'eus la certitude qu'elles étaient parties pour de bon. Je ne me trompais pas. Quel que soit le message apporté par ces créatures, elles ne voulaient le partager qu'avec moi. Je secouai la tête, signalant à Passang que ce n'était rien et que j'allais bien, puis remis mon masque et nous reprîmes notre longue et dangereuse descente. Il y avait 3 tentes près de l'ancien site du camp 4 sur le col nord, 2 de nos whimpers vertes et une plus petite tente allemande marron. Toutes 3 étaient vides. Passang fouilla cette dernière, en ressortit avec seulement quelques documents, puis la démolit à coups de pied. Il dénoua la corde qui nous reliait l'un à l'autre, me fit signe de m'asseoir sur une caisse vide pendant qu'il allait voir si notre cache, la crevasse dans laquelle nous avions dissimulé du matériel, avait été découverte. Je me passais d'oxygène pendant un moment et restais assis là, pantelant, souffrant à chaque inhalation et plus encore à l'expiration. Je tentais de profiter de la chaleur d'un réchaud Primus que Passang avait allumé. Le crépuscule était tombé quand mon compagnon revint, avec 2 nouvelles bouteilles d'oxygène et de la nourriture à faire réchauffer dans l'eau qui bouillonnait. Tout le col nord et la plus grande partie de l'arête nord que nous avions descendue se trouvaient à présent dans l'ombre. Seules les arêtes supérieures, le haut de la face nord et le sommet de l'Everest brillaient encore, rouge, orange et blanc, dans les derniers rayons du soleil couchant. Jamais je n'avais vu le plumet de neige au sommet s'étirer aussi loin vers l'est. Les vents là-haut devaient être terribles, inhumains, fatals à toute chose vivante. Ils sont tous deux sur l'arête sud-ouest, ou déjà blottis sous la grande tente de Reggie dans leur sac de couchage sur le col sud, me dis-je. Mais je n'y croyais pas. J'imaginais leurs corps gelés et raidis, comme ceux de Mallory et d'Aervin, gisant quelque part là-haut sur ce côté du sommet ou sur la terrible arête de neige de l'autre côté, ou pendus, morts, à leurs cordes d'escalade, comme l'avaient été Percival et Meyer, en attendant que les goraks les trouvent. Je sus, en 7 secondes, que si je survivais à cette journée, à cette retraite de la montagne, et si je refaisais un jour de l'alpinisme, jamais, en aucune circonstance, je ne reviendrais sur l'Everest. Notre échelle de spéléologue ne descendait plus le mur de glace de 30 mètres sous le col nord, bien sûr. Nous avions sectionné ses amarres pour la faire tomber en même temps que plusieurs alpinistes allemands. Mais nos poursuivants l'avaient remplacée par une longueur de leur corde d'escalade, attachée à 2 nouveaux corps morts enfoncés dans la neige au bord du col. Passang et moi prîmes le temps d'en ajouter un troisième, en remplissant de neige un sac à dos récupéré au camp 4, que nous enterrâmes aussi profondément que possible, avant de tasser davantage de neige dessus, et j'utilisais un mousqueton des Allemands et un anneau de sangle noué en tête d'alouette pour ajouter notre propre ancre aux 2 autres. Mais nous n'avions toujours pas confiance dans leur fichu corde à linge. Par chance, Nous portions tous les deux 36 mètres de corde miracle que Passang avait sorti de notre cache dans la crevasse du camp 4. Nous les nouâmes à nos baudriers de corde avec des nœuds de 8 gansés, puis je fis les nœuds de friction pour le rappel. Nous n'avions plus les jumards de JC. Je me dis que j'aurais dû lui en demander lorsqu'il était venu discuter avec moi au camp 5. Nous disposions donc de deux cordes pendant sur le mur, dont une fiable, pour descendre en rappel en même temps. Juste avant de nous élancer, nous sortîmes nos lampes de mineurs de nos besaces et passâmes en revue les petites batteries que nous avions apportées pour en trouver quelques-unes encore en état de marche. Pour une fois, je me jetai le premier par-dessus le bord du col nord pour quitter l'Everest proprement dit, et nous descendîmes en vitesse la paroi jusqu'à la pente de 270 mètres qu'il nous faudrait ensuite parcourir. Nous envisageâmes de bivouaquer pour la nuit quelque part après le camp 3, nous avions chacun un sac de couchage, puis préférâmes continuer d'avancer. Même à une allure ralentie à cause de l'obscurité, en nous aidant de nos petites lampes frontales pour éclairer la piste entre les crevasses sur le glacier, nous pensions arriver au camp de base avant l'aube. Passang menait notre courte cordée quand, juste après avoir dépassé le site désert du camp 3, je chutais dans une crevasse dissimulée sous la neige. Entendant mon cri, Passang réagit immédiatement, comme tout alpiniste expérimenté, en plantant son piolet dans la neige ferme à ses pieds et en se mettant en position d'assurage, si bien que je ne tombais que de 4,5 mètres environ. Mon piolet, qui s'était coincé entre les parois opposées, m'offrit une solide prise à laquelle m'accrocher pendant que je formais des nœuds de prussique avec ma main libre pour remonter. Je commis alors l'erreur de regarder vers le fond de la crevasse. À 6 mètres en dessous de moi, ma lampe frontale éclaira des visages bleus, des dizaines de visages gelés, de bouches béantes et d'yeux grands ouverts. Des bras et des mains émergeaient de la neige pour se tendre vers mes bottes. Je hurlai.
« Jake, qu'y a-t-il ? » cria Passang. « Vous êtes blessé ?»«
Non, ça va !»
répondis-je aussi fort que je pus, compte tenu de ma gorge enflée et de mon larynx abîmé.
« Remontez-moi !»
« Vous ne voulez pas remonter au prussique ?»«
Non ! Remontez-moi ! Vite !»
Passang obtempéra, ignorant la friction dangereuse de la corde contre le bord gelé de la crevasse. Il était très puissant. De mon côté, j'avais dégagé mon piolet et je taillais des prises en remontant. Enfin, je ressortis. Je rampai jusqu'à Passang, me levai, le souffle court, et pantelai en décrivant ce que j'avais vu.
« Ah ! » dit-il. Nous avons trouvé la crevasse que Herr Siegel et ses acolytes ont utilisée comme charnier pour nos amis Sherpas.
Je me mis à trembler de manière incontrôlable. Passang sortit une couverture de l'un de ses sacs et la posa sur mes épaules.
« Vous ne voulez pas aller voir ?»
demandai-je.
« Y a-t-il une chance que l'un d'eux soit vivant ?»
Le faisceau de notre lampe frontale dansait sur le torse de l'autre. Je songeais un instant au visage bleu, aux yeux et aux mains gelées, au corps entassé que j'avais vu là en bas.
« Non, » répondis-je. « Dans ce cas, je préfère ne pas voir. Je crains de m'être éloigné de quelques mètres de la bonne piste. Vous voulez bien prendre la tête de la cordée pendant un moment pour tenter d'éviter les crevasses ?»«
Bien sûr, »
dis-je.
Je replaçai mon masque à oxygène et me remis en route. La plupart de nos baguettes de bambou avaient disparu, mais les comparses de Siegel avaient laissé des empreintes de pas visibles entre les crevasses. Je baissai la tête pour braquer la lumière sur la neige et me concentrai sur le chemin en oubliant tout le reste. Je savais que si je m'écartais de la bonne piste, Jean-Claude reviendrait me guider. Le camp 2 à 6000 mètres et le camp 1 à 5400 mètres n'existait plus. Quoique les Allemands aient fait des tentes et des caches, Passang et moi n'en trouvâmes nulle trace. En raison de notre prudente descente, et surtout de mon allure lente, c'était presque la fausse aube lorsque nous parcourûmes le dernier 1,5 kilomètre séparant le camp 1 du site du camp de base à 5000 mètres. Si des Allemands nous y attendaient, comme le craignait le diacre, nos lampes de mineurs auraient fait de nous des cibles faciles, mais malgré notre épuisement, Passang et moi préférâmes continuer à marcher pour sortir enfin de cette maudite vallée. Des images de Reggie et du diacre ne cessaient de m'assaillir. Ils étaient peut-être coincés tout là-haut, au camp 6 ou 5, un univers différent de celui de la vallée glaciaire, coincés, malades ou blessés, et attendant qu'on vienne à leur secours, Passang et moi. Un sauvetage qui ne viendrait pas. J'avais tant de mal à respirer que je tenais à peine debout, et je titubais plutôt que je ne marchais sur la longue pente de la moraine, entre de hauts pénitents et des murs de glace. J'aurais été incapable de remonter au camp 2, même pour sauver ma propre vie. Nous sortîmes avec précaution des arêtes de la moraine et des pinacles pour rejoindre le camp de base. Il n'en restait plus rien. Tous les corps avaient été dispersés, toutes les tentes emportées ou plus probablement brûlées. C'était comme si l'expédition d'Icon Bromley n'était jamais venue ici. Le ciel s'éclairait, l'obscurité de la nuit laissait place à l'éclat gris précédant l'aube. Décrivant un grand arc de cercle pour contourner l'endroit où s'étaient trouvées les tentes et les sangas du camp de base, Passang et moi, toujours encordés, nous retrouvâmes sur le plateau de gravier derrière les dernières arêtes de la moraine. Nous éteignîmes nos lampes et les rangeâmes dans nos besaces, que nous portions maintenant sur notre dos, au-dessus des appareils à oxygène. J'en avais quatre de ces étuis de masque à gaz, bourrés à craquer de tout un tas de trucs allant d'un réchaud UNA à des casseroles.
« Et maintenant ?» demandai-je dans un murmure. « Puis-je me délester des deux dernières bouteilles d'oxygène ?»«
Pas encore, Monsieur Perry. » chuchota Passang en réponse. « Vous avez encore trop de difficultés à respirer. Sauf absolue nécessité, je préfère éviter de procéder à une trachéotomie. »«
Amen !»
Même mes murmures étaient rauques.
« On va par où ?» Le monastère du Rongbuk se trouve à 18 kilomètres et nous pourrons y demander de l'aide. Mais je doute fortement d'être capable d'aller plus loin.
Herr Siegel a peut-être laissé des hommes au monastère, fit remarquer Passang. Comme vous dites, mais essayons tout de même de nous en rapprocher. Ensuite, j'irai en reconnaissance à Rongbuk pendant que vous m'attendrez dans les rochers à la base de l'approche. S'il n'y a pas d'Allemands là-bas, nous nous placerons sous la protection du Bonza Trul Rinpoche, réincarnation de Padma Sambhava et Saint Lama du monastère.
D'accord, mais nous devrions d'abord...
Je n'entendis pas les coups de feu avant de sentir l'impact des balles. La première projeta la tête de Passang en avant dans une giclée de sang qui éclaboussa mon visage et le masque à oxygène que j'avais baissé. Une seconde plus tard, je sentis la deuxième balle traverser mon paquetage et l'appareil à oxygène pour aller se loger au-dessus de mon omoplate gauche. Passang était déjà tombé en avant sur le sol de pierre, apparemment mort. Avant de pouvoir ouvrir la bouche pour crier, je reçus un nouvel impact en haut du dos et m'effondrai à côté de lui. Je perdis connaissance sans même avoir eu le temps d'amortir ma chute avec mon avant-bras.